Ce matin, nous allons parler du merveilleux salut de Dieu pour le rebelle. Le récit que nous allons étudier nous présente deux personnes, l'homme d'un côté et de l'autre, on a Dieu. La relation qui lie ces deux personnes, c'est un lien d'autorité. C'est un peu comme la relation parent-enfant. Plus jeune, quand j'étais au lycée, je me souviens, il y avait des soirées dansantes. Et mes parents me disaient « Non, Rolly, tu n'iras pas ». Mais pourquoi ? Je rétorquais. Tous mes amis du collège y vont. J'entendais parler de ces soirées. Je savais ce qui s'y passait. Mais hélas, pour moi, je ne pouvais pas y aller. C'était une situation frustrante. Je leur disais « Vous savez, je ne suis pas un voyou, je ne bois pas, je ne vais pas m'injecter des choses dans le bras. Je n'y vais même pas pour les filles. Vous me connaissez, vous le savez, ça. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous m'interdisez d'y aller. Vous ne me faites pas confiance, c'est ça ?» Face à mes parents inflexibles, je boudais. Pour moi, c'était clair et net. Mes parents ne voulaient pas mon bien. Moi, je savais ce qui était bien pour moi. Mes parents, eux, non. Ils ne me comprenaient pas. Bref, je me renfermais sur moi et je faisais la tête. En plus, mes amis me disaient « Mais Rolly, tu ne sais pas ce que tu rates. Viens. » Mais aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je remercie mes parents. Merci parce que je n'ai absolument rien loupé. Je n'ai pas raté ma vie. Il n'y a absolument rien d'extrêmement important que j'aurais pu découvrir là-bas. Et surtout, j'ai été préservé de plusieurs choses qui m'auraient certainement affecté. Merci Seigneur, merci Papa, merci Maman. Dans le texte que nous allons lire ce matin, la situation est assez similaire. Ce qui est surprenant chez la personne rebelle dans l'histoire, c'est que sa fonction, son profil, ne la prédisposait pas à un endurcissement, un entêtement si fort. De qui s'agit-il ? Il s'agit d'un prophète. Il parlait au nom de Dieu, il enseignait, il avertissait le peuple. Voyons cela en détail. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jonas. Pour les Bibles qui sont devant vous, c'est à la page 594. Jonas, au chapitre 1. Nous allons lire les trois premiers versets pour commencer. Et si possible, gardez-les ouvertes parce que nous allons beaucoup revenir dedans. Jonas, chapitre 1, les trois premiers versets. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Quelle est la cause de la rébellion ici ? Dieu parle, Jonas s'oppose à Dieu. Il quitte son pays Israël pour s'enfuir en la direction opposée à la ville de Ninive. Une divergence de vision. Notre récit se déroule autour des années 750 avant Jésus-Christ. Ninive est la capitale de l'Empire assyrien, qui domine et fait régner la terreur dans toute la sous-région. Franchement, dites-moi, seriez-vous prêt à aller en Allemagne en 1944 pour dire au Reich que sa méchanceté est montée jusqu'à Dieu ? Seriez-vous prêt à le faire ? Jonas, lui, ici, il refuse. Il descend à Jaffa, une ville qui aujourd'hui est située au sud de Tel Aviv en Israël. Il monte dans un bateau pour aller à Tarsis en Espagne et il s'endort. Et d'un coup, une grosse tempête. Dans l'obscurité, Dieu fait souffler un vent violent, au point que les marins ont peur. Imaginez des personnes qui ont Bac plus 10 en navigation, ils sont tous désarmés. Face à cette situation, ils font appel à leur multitude de dieux, mais ça ne fonctionne pas. Le capitaine du bateau, le voyant dormir, réveille Jonas. « Mais comment ça se fait que tu dormes ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu, peut-être qu'il nous sauvera. » Hélas, aucune mention d'un Jonas qui prie. Les marins décident alors de tirer au sort pour savoir qui leur attire ce malheur. Et comme par hasard, le sort tombe sur Jonas. Il est le seul à bord à vraiment comprendre ce qui se passe. Poussé dans ses retranchements, il finit par abdiquer. Il reconnaît sa responsabilité et redevient ainsi un prophète. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui propose la solution aux marins à cette tempête d'origine divine. Écoutez ce qu'il leur dit au verset 12. Jonas leur dit « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette tempête. » Je saute au verset 15, il dit « Puis ils prirent Jonas, ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. » Jonas finit dans l'eau sans aucun signe d'une remise en question. En acceptant de se sacrifier, Jonas choisit de poursuivre délibérément sa descente vers la mort. Voilà pour quelques éléments de contexte. Que va-t-il se passer dans la suite ? À ce stade du récit, on peut dire, là, ça sent vraiment le roussi. Il va y rester. Lisons ensemble le chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je reverrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Comme mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Surprise ! Jonas est toujours en vie, il s'en est sorti et en plus maintenant il prie de nouveau, il se tourne vers Dieu. Un retournement de situation. Regardez les éléments de contraste dans ce texte. Au début du chapitre, Jonas poursuit sa descente dans l'obscurité de la mer. À la fin, il remonte à la surface de la terre où il y a de la lumière. Sur le point de mourir, en fait, il survit. En train de couler dans l'eau, il finit sur la terre ferme, rebelle. Il devient reconnaissant, il écrit cette prière. Regardez le poème qu'il compose, ce psaume où il est reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Mais que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Lisons ensemble le verset 10. La fin du verset 10, Jonas dit « Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de Dieu. » Jonas a fait l'expérience personnelle et saisissante du Dieu qui sauve. Dans les profondeurs de la Méditerranée, il ne pouvait pas se sauver tout seul. C'était peine perdue d'essayer. Ok, soit. Mais alors, quel est l'enseignement de Dieu dans ce récit ? Quel message Dieu veut nous communiquer au travers de l'histoire de Jonas ? Voici l'enseignement de ce texte, écoutez bien. Ce passage nous apprend que le salut de Dieu révèle notre rébellion. Ce salut nous émerveille de Dieu et de sa grâce. Le salut de Dieu révèle notre rébellion et ce salut nous émerveille de Dieu et de sa grâce. En mettant en œuvre son salut dans l'histoire, Dieu veut montrer à Jonas l'état de son cœur, sa résistance, son entêtement. On va y revenir dans quelques minutes. Complètement opposé à Dieu, Jonas est devenu reconnaissant. Pourquoi ? Jonas s'émerveille parce que Dieu l'a sauvé. Sa prière de reconnaissance trouve sa source dans cette vision renouvelée de Dieu et de son salut. La reconnaissance de Jonas, c'est plus que cette prière, c'est plus que l'idée de chanter. C'est, en effet, tout cela découle d'une perception plus limpide que Dieu lui donne sur qui il est et sur son salut. C'est de là que tout le reste découle. Ainsi, si vous vous interrogez sur le Dieu de la Bible, si vous voulez en savoir plus, avoir une connaissance personnelle de lui, je vous encourage à tout simplement lire cette Bible. Ce livre se suffit à lui tout seul. Charles Spurgeon le dit en ces mots, « Défendre la Bible ? Non. Autant défendre un lion. Détachez-la et elle se défendra toute seule. » Voyons plus en détail ensemble comment Dieu révèle à Jonas sa rébellion. Ensuite, nous allons nous émerveiller de la grâce de Dieu dans ce texte. Alors, comment Dieu révèle la rébellion de Jonas ? Ici, Dieu pointe du doigt le péché de Jonas. Il utilise pour cela sa parole, pour confronter Jonas sur son cœur mauvais. Il lui montre jusqu'où peut aller son endurcissement. Dieu l'oblige à se regarder lui-même comme un bénéficiaire de la grâce au même titre que ses ennemis, les Assyriens. Dans ce texte, Dieu est en train de lui dire « Jonas, tu t'opposes à ma parole parce que ton cœur manque de compassion. Tu luttes contre ma grâce. Stop, faut que ça change. » La raison pour laquelle Jonas refuse sa mission n'est pas liée à la peur. Jonas s'oppose à Dieu parce qu'il manque de compassion. Il est contre la grâce de Dieu. C'est surprenant. Et c'est lui-même qui le dit. Dans la suite, il va finalement aller à Ninive. Il va leur annoncer le message aux Assyriens et ceux-ci vont se tourner vers Dieu. Je veux dire le verset 2 du chapitre 4. Écoutez bien. Voici ce qu'il dit. « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? Ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, long à la colère et riche en bonté, et que tu regrettes le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Jonas lutte contre Dieu, lutte contre sa grâce. Il préfère que les Assyriens périssent. Il veut que Dieu les juge. Il refuse que Dieu leur pardonne. En achetant un paquet de cigarettes, on lit que fumer tue. On le sait, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrête. Pour Jonas, c'est pareil ici. Sa connaissance sur Dieu n'implique pas sa soumission, ni encore moins son obéissance. Jonas connaissait l'intention de Dieu. C'est un vrai prophète. Mais dès le début, il s'oppose à sa parole. Qu'en est-il pour nous ? Qu'en est-il pour nous ? Dans sa parole, dans la Bible, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent. C'était le cas des Assyriens qui attaquaient Israël. Est-ce que nous aimons nos ennemis ? Est-ce que nous prions pour eux ? Imaginez le changement que Dieu peut produire. Peut-être dans notre couple. Est-ce que nous nous soumettons à la parole de Dieu pour nous aimer, pour se demander pardon mutuellement, faire le premier pas, reconnaître notre tort ? Là aussi, imaginez ce que cela pourrait produire. Seul dans notre chambre, chez nous, devant notre écran, devant notre téléphone portable et peut-être même dans nos pensées, est-ce que nous honorons Dieu ? Si ce n'est pas le cas, comme Jonas, Dieu nous dit que nous nous opposons à sa parole et qu'il faut que cela change. Soyons sensibles à l'appel que Dieu nous lance dans ce texte, car notre situation est beaucoup plus tragique que nous pouvons le penser. Ici, dans sa chute, Jonas ne réalise pas ce qui se passe. Et c'est souvent pareil pour nous. Dieu révèle à Jonas comment il lutte contre la grâce. Mais ce n'est pas tout. Dieu lui dit également, « Jonas, réalise jusqu'où te mène ta rébellion, jusqu'où te mène ton endurcissement. » Je veux te sauver de cela. Le chapitre 1 et 2 nous décrivent l'image d'une descente, d'une chute libre. Regardez le verset 3 du chapitre 1. Jonas descend à Jaffa. Ensuite, il va descendre au fond du bateau. Et plus tard, il va s'engloutir dans la Méditerranée. Et maintenant, regardez le chapitre 2. Il descend dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer. Une descente synonyme de tragédie. Plus qu'une tragédie, cette descente est source de souffrance. Elle est douloureuse. Regardez le verset 5 du chapitre 2. « Toutes tes vagues, tous tes flots sont passés sur moi. » Un instant, plongez-vous avec Jonas dans cette Méditerranée, dans ses eaux avec lui. Il dit au verset 6, « Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. » Souffrance. Et bien plus que la souffrance, la descente de Jonas symbolise aussi la mort ici. Sa rébellion le conduit à une mort imminente. Et Jonas le reconnaît bien, il le dit avec ses mots. Dieu est en train de lui dire, « Jonas, réalise jusqu'où te mène ta rébellion. Regarde à quel point tu peux t'endurcir. Je veux changer ça. Je veux te sauver. » Qu'en est-il pour nous ? Jusqu'où sommes-nous prêts à nous endurcir lorsque notre conjoint nous suggère que de nous remettre en question à cause de notre péché? En tant qu'enfant, jusqu'où je m'entête quand mes parents condamnent ma mauvaise attitude? Dieu me demande d'honorer mes parents. C'est un non négociable. Nous sommes dans une église avec des responsables. Jusqu'où sommes-nous prêts à nous opposer à l'autorité que Dieu place au sein de son église? Nul n'est parfait. Ça fait quelques années que je suis là et j'ai été repris à plusieurs reprises par des frères, par des sœurs. J'ai également été repris par les anciens parce que je me comportais mal à certains moments. Je manquais de grâce. Heureusement pour moi. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de me remettre en question et de changer. Et c'était bénéfique. Et vous, jusqu'où allez-vous vous endurcir? Dans ce texte, Dieu dit à Jonas, réalise jusqu'où te mène ta rébellion. Et de même, Dieu nous dit, regardez à quel point vous pouvez vous endurcir. Je veux changer ça. Dieu veut nous changer. Dieu veut nous sauver. Oui, Dieu veut nous sauver. Appelons-le à l'aide comme Jonas le fait. Ce qui est encore plus magnifique dans ce texte, c'est que Dieu dit à Jonas, « Jonas, regarde, regarde ce que je fais pour toi. Tu t'opposes à ma grâce, tu t'opposes à ma compassion, mais regarde combien toi aussi tu en as besoin. Tu as besoin de ma grâce. Les Assyriens comme toi, vous êtes bénéficiaires de ma grâce, car c'est moi qui sauve. Réalise-le, Jonas. » Si je vous demandais, aujourd'hui, qui est la personne qui s'oppose le plus à Dieu dans votre entourage? Réfléchissez une minute. Qui est la personne qui s'oppose le plus à Dieu dans votre entourage? Que répondriez-vous? Si vous êtes comme Jonas, vous allez sûrement indexer des personnes autour de vous. Mais cependant, dans ce texte, Dieu dit à Jonas, regarde à toi-même. Regarde à l'état de ton cœur. Toi-même, tu es tout aussi endurci, cruel, tu veux leur mort. Et tu es tout aussi en danger dans les profondeurs de la mer. Et tu as besoin de ma grâce. Tu as besoin que je vienne vers toi pour te sauver. L'apôtre Paul était jadis rebelle à Jésus. Et lui aussi, il a été transformé par le salut et la grâce de Dieu. Voyez comment il exprime sa reconnaissance. Saisissez le contraste avec Jonas ici. Je veux lire dans Timothée. Il dit, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Oui, Paul a participé à la mort d'Étienne. Mais cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance, dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et je suis moi-même le premier d'entre eux. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Là où Jonas se considère les Assyriens comme pire que les pires des hommes, Paul se place comme étant le premier des pécheurs devant tout le monde. Jonas se place au-dessus, Paul se place en dessous. Là où même dans l'Église, nous plaçons au-dessus des autres en nous comparant, en nous considérant comme meilleurs, l'apôtre Paul, par son attitude, nous appelle à suivre l'exemple de Christ. Notre Seigneur a pris sur lui la faute des pires des pécheurs. Il s'est non seulement identifié à nous, mais il a aussi pris notre place. Là où Jonas était prêt à mourir pour priver les Assyriens de salut, Jésus a donné librement sa vie. On est en train d'arriver à cette notion de grâce extraordinaire, cette grâce merveilleuse. Mais avant de passer à la suite, rappelons-nous qu'en révélant notre rébellion, Dieu nous demande une pleine soumission, une pleine obéissance à sa parole. Soumettons-nous à Dieu, à ce Dieu qui est bienveillant. Alors j'ignore quelle situation nous traversons, mais ici Dieu nous appelle à nous soumettre à sa parole, à dire stop à ces choses dans notre vie d'étudiant, d'enfant, de responsable d'activité, de conjoint, d'ami, de dire stop à ces choses qui ne l'honorent pas. Dieu nous demande de réaliser notre endurcissement. Il veut nous sauver, il veut nous en délivrer. Dieu appelle chacun de nous Dieu nous appelle à nous considérer chacun individuellement comme étant le pire, finalement, le premier parmi les pécheurs. Voilà comment Dieu révèle notre rébellion dans ce passage. Car c'est dans ces conditions-là que nous allons pleinement vivre la grâce de Dieu. C'est en réalisant notre état que nous irons vers Dieu pour réclamer sa grâce, pour nous-mêmes, au même titre que notre entourage, demander cette grâce-là. C'est ça, vivre par la grâce. Nous venons de voir qu'en nous sauvant, Dieu nous révèle notre rébellion. Mais ce qui est encore plus magnifique, c'est que ce salut nous émerveille de Dieu lui-même et de sa grâce. Une grâce extraordinaire, une grâce merveilleuse. Ici, la grâce de Dieu nous confronte. La grâce de Dieu, elle est patiente. La grâce de Dieu dans ce texte est bienveillante. Dieu est auprès de Jonas, même dans les profondeurs de la mer, dans l'obscurité de son péché. Dieu le confronte tout au long du récit. La tempête est là pour le réveiller, le capitaine est là pour le réveiller. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement un cadeau immérité, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus beau, et on ne le perçoit qu'en partie. Ici, la grâce de Dieu transforme Jonas, elle incline son cœur à l'obéissance. Jonas a été transformé par Dieu. Et il en est de même pour plusieurs parmi nous ce matin, ici. Cette grâce ne se limite pas à des croyants, à des prophètes. Elle est pour les rebelles, qu'ils soient athées ou croyants pratiquants comme Jonas, ici dans ce texte, qui est un prophète. C'est dans sa grâce que Dieu s'approche de Jonas, indépendamment de ses connaissances bibliques. Il ne tient même pas compte de l'intensité de son endurcissement. Dieu va le sauver au fin fond de la mer, lorsqu'il est au plus bas. Dans cette prière, Jonas cite les psaumes. Il connaissait bien la Bible. Mais ici, Dieu nous montre que même les plus religieux peuvent se rebeller. Un avertissement pour ceux d'entre nous qui nous croyons à l'abri. Et encore plus important, ce n'est pas tant l'étendue de notre connaissance sur Dieu ou notre statut, notre titre, Jonas est prophète, notre titre dans l'Église qui fait la différence. Ce qui compte vraiment, c'est notre attachement à lui, notre soumission à sa parole, notre intimité et notre obéissance à notre Dieu. Je suis peut-être responsable du groupe de jeunes, mais à moi, Dieu me dit, est-ce que tu m'obéis, Rolly? Est-ce que tu prends plaisir en moi dans ton intimité? Comme les pharisiens, on peut connaître énormément de choses sur la Bible, avoir des titres et pourtant rejeter Jésus. Les pharisiens l'ont fait. Ou rejeter la grâce, un prophète l'a fait. Inversement, on peut connaître peu de choses sur Dieu et vivre une pleine communion avec lui. Contrairement à Jonas, les marins au chapitre 1, tout comme les Ninivites au chapitre 3, priaient d'autres dieux. Pourtant, c'est finalement le Dieu de Jonas qu'ils vont adorer. C'est lui qu'ils vont craindre, c'est lui qu'ils vont prier. Dieu s'est approché d'eux indépendamment de leur connaissance. De même, aujourd'hui, là, maintenant, Dieu s'approche de nous indépendamment de notre savoir biblique, de notre péché, de son intensité. Quelle est notre réponse? Quelle est notre réponse? Dans sa prière, Jonas dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais pourtant, Dieu lui fait grâce malgré tout. Regardez le verset 9, lisons-le ensemble. Je cite, il dit « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » Voilà ce que Jonas dit. Mais ici, Jonas fait une fausse comparaison. En effet, dans ce récit, Dieu nous dit que c'est exactement le contraire qui se produit. Ce sont précisément les marins, ces païens qui adoraient leurs idoles, qui se tournent finalement vers Dieu. Ils n'ont pas éloigné d'eux la bonté de Dieu. De même, les Ninivites, au chapitre 3, qui étaient polythéistes, ils vont se tourner vers Dieu. Il serait donc plus juste de dire, comme moi, ceux qui s'attachent à de vaines idoles sont aussi au bénéfice de la grâce. Ensemble, nous offrirons des sacrifices avec un cri de reconnaissance. C'est exactement ce qui se produit dans ce texte. Regardez le verset 16 du chapitre 1. Regardez la fin du verset 16. Regardez ce qui se passe avec les marins. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Ils adorent le Dieu de Jonas. Il a tort. Mais malgré tout cela, Dieu s'approche de Jonas indépendamment de ses connaissances bibliques. Il ne tient pas compte de l'intensité de son endurcissement. De toute évidence, il y a encore du boulot, mais Dieu veut faire avec lui. Et la suite confirme justement cela au chapitre 4. Comme Jonas, Dieu s'approche de chacun de nous ce matin. Dieu veut nous sauver des profondeurs de notre péché, de notre orgueil, de notre indifférence aux besoins des autres, de notre indifférence aux souffrances des gens qui sont autour de nous. Dieu veut nous délivrer de nos dépendances, de la noirceur de notre cœur rebelle qui refuse des fois de pardonner, qui refuse de faire le premier pas vers l'autre. Dieu veut nous délivrer de nous-mêmes. Comme Jonas, il veut nous délivrer, peu importe là où nous sommes, peu importe là où nous sommes arrivés. Et ce même si on se voit comme étant trop coupable. Non, mais là, je suis allé trop loin. Dieu vient nous chercher malgré tout. N'attendons plus. Comme Jonas, appelons-le à l'aide, car il veut nous sauver là, maintenant. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Pourquoi ? Parce que sa grâce change tout. Sa grâce change tout. Elle est extraordinaire. Elle est merveilleuse. Le poisson ici symbolise cette grâce de Dieu qui sauve. Ce n'est pas un jugement. Le poisson symbolise la grâce de Dieu. C'est un miracle. Regardez la structure du chapitre 2. Regardez la structure. Le premier verset et le dernier verset mentionnent ce poisson-là qui enveloppe la prière de Jonas. Jonas est enveloppé par ce poisson, par la grâce de Dieu. Cette image soutient que Dieu est celui qui pourvoit au salut. Et il peut utiliser des moyens qui sortent de l'ordinaire pour sauver Jonas, son prophète. De même, ayons confiance en Dieu, peu importe notre situation. En effet, la puissance de ce miracle nous démontre qu'il peut nous sortir de nos galères. Ce poisson est certes un miracle, mais il y a encore quelque chose de plus grand. Ce poisson n'est qu'un avant-goût de quelque chose d'encore plus merveilleux. Car 750 ans plus tard, après ce récit, Jésus est venu. Jonas a reçu son message de Dieu. Jésus, lui, était le message. Il était la parole de Dieu, dit autrement, le prophète par excellence. Il est venu non pas pour parler à un seul peuple, mais pour sauver le monde. Écoutez ce qu'il dit à d'autres rebelles dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Je lis au chapitre 12. Alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, et il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas, il y a Jésus lui-même. Les 3 jours dans Jonas ne sont pas là par hasard. Le miracle du poisson n'est pas là par hasard. Ces choses pointaient 750 ans avant vers la mort et la résurrection de Jésus. Jonas a vécu 3 jours et 3 nuits en vivant dans le poisson. Jésus est vraiment mort et ressuscité. Il a vaincu la mort pour nous tous. Quelle espérance ! Pour ceux qui placent leur confiance en lui. Jonas a survécu pour parler à Ninive. Jésus est mort pour sauver ce monde. Quelle espérance pour notre endurcissement. Dieu veut nous sauver. Il y a un après la mort. Jonas a tout simplement frôlé la mort par sa désobéissance. Mais Jésus, lui, il a connu la mort à cause de notre désobéissance. Aujourd'hui, Dieu ne compte pas mon péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Notre frère Marcel l'a dit tout à l'heure. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jonas était prêt à mourir pour priver les Assyriens de leur salut. De salut, Jésus a donné librement sa vie. Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qu'allons-nous répondre ? Quelle est notre réponse ce matin ? Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes tous des rebelles, et moi le premier. J'ai besoin de ta grâce encore plus que les autres. Délivre-moi, délivre-nous de notre rébellion. Donne-nous de vivre la confession, le pardon, la paix dans nos relations, Seigneur. Rends-nous sensibles à ceux qui souffrent dans notre Église, Antoine, Barbara. Seigneur, donne-nous de nous impliquer dans les vies des autres. On a prié pour les enfants ce matin. Seigneur, je te prie, nous voulons également te prier pour Grenoble, pour notre ville et son agglomération, cette belle ville où tu nous as placés aujourd'hui. Nous te prions pour chaque habitant. La plupart sont sceptiques à la foi, parfois même opposés. Mais merci parce que ce matin, tu nous dis que tu veux sauver les Grenoblois. Seigneur, ton salut ne dépend pas de notre capacité, de nos dons. Fais de nous des Jonas obéissants. Encore mieux, fais de nous des vrais disciples de Jésus. Utilise chacun de nous ce matin, que nous puissions aller à la rencontre de nos contemporains, de nos voisins, que nous tissions des vrais liens. Il ne s'agit pas de faire des contacts, mais de manifester ton amour, un amour qui coûte, qui est indépendant de nos origines, de notre personnalité, de notre arrière-plan. Merci pour Jérémie qui nous disait « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. » Tu as dit que tu bâtiras ton Église. Seigneur, je t'en supplie, viens bâtir ton Église, viens transformer nos cœurs pour ta gloire et pour notre plus grande joie. Amen.